Aujourd'hui, nous allons suivre un disciple anonyme. Je ne vous donnerai pas son nom parce que je ne le connais pas. Et voilà, c'est fini. La belle histoire, la belle aventure se termine. Quasiment 3 ans qui ont été incroyables à vivre avec quelqu'un d'exceptionnel, un leader, mais un leader particulier. Il s'appelait Jésus, je dis s'appelait parce que ce matin il est mort, il n'est plus là. C'est déjà le 3e jour. Et nous dormons tous très mal depuis que nous avons assisté à son exécution brutale, comme seuls les Romains savent le faire. Les Romains, bien aidés par des chefs religieux qui ne savaient plus comment se débarrasser de Jésus, le gêneur, l'empêcheur de penser comme avant. Oui, c'est exactement l'état d'esprit de nous tous aujourd'hui, les disciples, hommes ou femmes, qui avons vécu tout cela. Certains depuis le début, d'autres qui se sont joints un peu plus tard à ce groupe vraiment hétéroclite que Jésus avait rassemblé petit à petit autour de lui. Mais notre état d'esprit, c'est que nous y avons cru et que maintenant tout s'écroule. Je me souviendrai longtemps de ce printemps sinistre. Il avait à peine 33 ans. À quoi tout cela a-t-il servi? Nous sommes tous fatigués, physiquement, moralement. Hier, durant le sabbat, il a fallu se cacher, pas trop se faire remarquer. Et nous avions tellement besoin de récupérer. D'ailleurs, ce matin, dans la maison, on n'a pas entendu bouger grand monde. Juste quelques femmes, levées plus tôt, comme d'habitude, elles se sont affairées et on les a juste entendues sortir. Attendez, je reviens. Il y a du bruit en bas, il faut que je descende voir ce qui se passe. Toute la maison est en train de s'agiter. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau, en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient aussi avec elles portèrent la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Ce que je viens d'entendre en bas dans la maison, ça m'étonne beaucoup. En fait, les femmes étaient allées au tombeau pour voir si elles auraient l'autorisation de parfumer le corps de Jésus. Elles viennent de revenir avec une histoire insensée qu'elles ont raconté à tout le monde. Quand elles sont arrivées, le tombeau était vide, il n'y avait plus de corps, disparu. Ça déjà, c'est pas normal. C'est passé quelque chose d'étrange. Mais elles en rajoutent. Elles disent qu'elles ont vu 2 anges, autant que je puisse l'imaginer. Elles ont eu vraiment peur, elles avaient même envie de s'enfuir, mais elles ont quand même entendu ces apparitions leur dire que tout ça, c'était prévu. Comme si ce n'était pas surprenant, après tout. D'après la réaction des uns et des autres, je vois bien qu'on est peu nombreux à trouver ça crédible. Mais Pierre est quand même allé voir. Alors avouons-nous ici ce matin que ça nous brûle les lèvres, que nous avons envie, tellement envie de lui dire à ce disciple qui nous parle qu'il est décidément bien lent à comprendre, que ça lui va bien de mettre en doute la parole des femmes qui reviennent du tombeau alors que lui-même avait tellement d'indices sur ce qui allait se passer. Eh oui, mais nous savons. Nous savons parce que nous sommes de l'autre côté de Pâques. Nous sommes sur l'autre versant de la montagne de Pâques. Nous avons vu le sommet, nous redescendons. Mais lui, au moment où il parle, il est sur le premier versant. Il monte vers Pâques. Il n'a pas encore vu le sommet. Il est en train de découvrir. C'est vrai que des indices, il y en a plein, parce que Jésus en a semé partout. Il y a cette fameuse conversation où tout d'un coup, Jésus interroge les disciples. « Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je d'après eux ?» Visiblement, il n'y a pas qu'une réponse. Hein. C'est Jean-Baptiste, Élie. « Mais vous, les disciples, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répond « Tu es le Messie. » Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit cela très clairement. Il y a aussi cette annonce que personne ne veut entendre, surtout après le miracle que Jésus vient d'accomplir. Il vient de guérir un enfant. Et là encore, il leur dit, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. Et Jésus insiste. Encore, lorsqu'ils marchaient tous en direction de Jérusalem, une autre fois encore, il a pris à part ses disciples pour leur dire quelque chose qu'il est difficile d'entendre. Ils étaient en route pour monter à Jérusalem, Jésus marchait en tête. L'angoisse s'était emparée des disciples et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 à part et il se mit à leur dire ce qui allait arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem. » Le Fils de l'homme y sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis, au bout de 3 jours, il ressuscitera. Il y a quelques jours encore, à Béthanie, une femme a répandu sur la tête de Jésus du parfum. Ce qui a fait beaucoup jaser les disciples qui ont crié au gaspillage. Et à cette occasion, Jésus a dit, tiens, que ce parfum répandu sur sa chevelure, c'était pour préparer son corps à la sépulture. Personne ne voulait y croire. Et il y a à peine 3 jours, après le repas de la Pâque, sur le chemin du Mont des Oliviers, il a averti. Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Alors là, oui, des indices, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Mais on sait que entendre et écouter, ce n'est pas la même chose. Il y a des choses qu'on n'a pas envie d'écouter, même si on les entend, car elles ne rentrent pas dans le cadre qu'on s'était fixé. Jésus ne peut pas mourir. Le disciple avait à sa disposition beaucoup d'indices, mais alors, qui sommes-nous pour prétendre faire la leçon à notre disciple ? J'avais prévu de raccompagner Cléopas à Emmaüs, c'est chez lui. Nous partons donc après le repas, car il y a un bon bout de chemin à faire avant d'y arriver. Tous les événements de la matinée nous ont pas mal perturbés, je dois le dire. Quand Pierre est revenu ce matin, après avoir vu le tombeau, il n'a pas dit quelque chose de différent de ce qu'avaient raconté les femmes sur le tombeau vide. Il avait l'air pensif. On marche, pensif, nous aussi. Et de temps en temps, on se dit l'un à l'autre nos impressions sur tout ce qu'on vient de vivre. Et puis, comme c'est un chemin assez fréquenté, le premier jour de la semaine, les gens qui vont dans la même direction finissent par adopter le même rythme. Vous savez ce que c'est. Quand tu vois des gens discuter, tu t'approches, forcément. Et c'est ce qui se passe avec quelqu'un qu'on n'a pas invité, mais qui se met à marcher du même pas à côté de Cléopas. Pendant un temps, nous, on se tait. On n'arrête pas de se repasser dans notre tête tout ce qui est arrivé dans l'ordre depuis 3 jours. C'est pas facile à revivre. Alors, quand l'homme qui marche avec nous depuis un petit moment nous demande de quoi en discuter, alors là, ça fait mal. On vient de traverser quelque chose de très dur. Il n'a pas l'air au courant. Cléopas n'en croit pas ses oreilles. Le marcheur à côté de nous vient de Jérusalem, il n'est pas au courant. Il faut tout lui dire. Alors Cléopas raconte, moi je donne quelques détails aussi sur ces 3 derniers jours. Mais comment se fait-il qu'il n'en ait pas entendu parler ? Et là, il nous cueille à froid, il nous dit carrément « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors il commence à nous faire tout un panorama des textes qu'on avait l'habitude d'entendre à la synagogue, en reliant ces textes les uns aux autres, comme s'y parlait la même personne. Il part des livres de Moïse, il passe par les prophètes, Zacharie, Ésaïe et les autres, et nous explique que tous ces textes ont un rapport avec le crucifié. Cléopas et moi, on les connaît ces textes depuis longtemps. On les a tellement entendus et même appris par cœur dès notre enfance. Mais on ne les avait jamais lus comme ça. Tout d'un coup, c'est comme si toute l'histoire s'éclairait. Comme quoi une rencontre sur un chemin, ça peut changer votre vision des choses. En fait, cette marche, elle devient tout d'un coup passionnante. On était loin de s'y attendre et on n'a pas vu les 13 kilomètres passer. Les yeux fixés sur l'horizon et concentrés sur ce qu'il nous explique. On arrive à la maison, nos esprits, Cléopas et moi, sont plus qu'agités. On n'a pas tellement envie que ça s'arrête. Alors on invite le marcheur à faire étape, manger un morceau, dormir et puis il repartira de même. Il accepte. Et on continue à discuter en s'installant et puis vient le moment de manger. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais cette façon de prononcer la prière de bénédiction, cette façon de déchirer le pain et de nous le passer, tout de suite, ça nous a rappelé ce qu'on avait vécu avec le maître qu'on avait suivi sur les chemins. On s'est regardé avec Cléopas, on n'avait pas besoin de se parler, on a compris la même chose, c'était lui. On reste quelques secondes bloqués comme ça, l'un face à l'autre, plus qu'étonnés, fascinés. Et quand on se tourne vers lui au bout de la table, il n'y a personne. C'est fou. Mais nous, on sait ce qu'on a vu. On sait ce qu'on a entendu. Alors on repart vers Jérusalem, en sens inverse, presque en courant. C'est impossible de ne pas dire ce qui nous est arrivé aux autres. C'est dur, hein ? Pour nous ici ce matin, de l'autre côté de Pâques, de se retenir, de ne pas secouer ces personnages. Ils mettent tellement de temps à comprendre, mais enfin, ils sont aveugles ou quoi ? Ils ne reconnaissent pas une personne avec laquelle ils ont vécu ? Ils commencent à comprendre uniquement en voyant ses gestes ? Qu'ont-ils vu de ses mains lorsqu'il a distribué le pain ? Ça, personne ne le sait. Mais le récit de Luc n'a pas pour but de nous dépeindre 2 héros de la foi. Et il n'a pas pour but non plus de nous décrire des hommes dépourvus de foi. Il nous montre comment il est humain de réagir. Qui d'entre nous n'aurait pas dit au bout de 3 jours, nous sommes déçus. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Comment vous sortez de ça quand dans toute votre enfance et dans toute votre jeunesse, on vous présente un Messie victorieux, un libérateur, et que c'est comme ça qu'on vous fait lire les prophètes. L'actualité, c'est un pays occupé par les troupes ennemies, une fois de plus. Et on a en face ces promesses de délivrance 100 fois lues à la synagogue. « Jusqu'à quand, Seigneur ?» disent aussi les psaumes. « À quand la délivrance ?» Et puis quand même, cette marche et cette entrée triomphale dans Jérusalem, au début de la semaine, c'était quand même bien l'ambiance d'une révolution, non ? Qui d'entre nous n'aurait pas vécu la croix comme un échec dans ces conditions ? Alors on voit ce travail de marcheur à côté des disciples qui patiemment remet les textes dans le bon axe, dans la bonne perspective, qui leur redonne du sens, c'est-à-dire à la fois une direction dans laquelle il faut les lire et la signification qui est la leur. N'avons-nous pas senti un feu dans notre cœur quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ? Ils étaient devant un mur d'incompréhension et tout d'un coup, ce mur se fissure. Ils ne sont peut-être pas dans une impasse. Ils n'en savent pas plus pour l'instant. Mais c'est pas mal. Treize kilomètres aller, 13 kilomètres retour. Cléopas a mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Il y a du monde quand on nous ouvre la porte. Les 11 disciples et d'autres qui les ont rejoints. On n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche, que tous nous disent en même temps que Jésus est ressuscité, que même Simon-Pierre l'a vu. Ils sont tous surexcités. Mais comme ils sont quand même surpris de nous voir revenir, ils nous écoutent enfin. Nous, on a bien eu le temps de faire le point avec Cléopas sur ce qu'on a vécu tous les deux en faisant le chemin en sens inverse. On raconte en détail ce marcheur qu'on n'a pas reconnu tout d'abord. Puis on essaie de rapporter fidèlement ce qu'il nous a dit à partir des Écritures, puis le moment où tout d'un coup on a réalisé avec qui on était quand il a distribué du pain. Bref, on raconte tout cela en essayant de ne rien oublier. Et à peine on a terminé, le voilà. Il est là de nouveau. Mais c'est tellement inattendu que tout le monde recule. Comment est-il entré ? Ça ressemble tellement à la fois Il est apparu sur l'eau. Est-ce vraiment lui ? Est-ce un fantôme ? Mais non, nous on a besoin de savoir maintenant. On lui demande de s'asseoir, de nous prouver qu'il a bien un corps comme nous, de nous le prouver en mangeant comme nous. Et il fait tout cela. Et c'est bien lui. Tout le monde est sous le choc. Mais déjà, comme il faisait avant, il commence à expliquer ce qui vient d'arriver. Il reprend Moïse, les prophètes, les psaumes. Cléopas et moi, nous avons un peu d'avance sur les autres. Mais ça ne nous fait pas de mal de le réentendre. Et surtout, on réalise enfin tout ce que voulaient dire tous ces passages sur le serviteur dans Ésaïe. Des choses qui nous semblaient tellement mystérieuses. Nous, les disciples, nous n'avions jamais compris ces textes comme ça. Ils ont 700 ans. Ils sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Voilà, nous allons laisser notre disciple là. Il a vécu sans doute la journée la plus incroyable de sa vie. Mais ce n'est pas la dernière, nous le savons. Et nous allons juste souligner trois aspects, très rapidement, de la signification de cet événement planétaire de Pâques. Oui, Pâques, c'est un aboutissement nécessaire. Nécessaire. Oui, Pâques, ce sont des textes, des promesses, des annonces, des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux et qui deviennent réalité. Et c'est comme tout d'un coup, comme l'a vécu notre disciple, comme quand le jour se lève. Au début, on voit que des formes vagues dans la campagne, dans la petite lumière du matin. Et puis, on commence progressivement à distinguer les maisons, les chemins, les arbres. C'est exactement ce qui arrive à Pâques. Pâques nous met des lunettes progressives et nous voyons de mieux en mieux en profondeur. Jésus l'a répété, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans les Écritures. Il fallait que cela ait lieu. Le jour 3, celui de la résurrection, nous l'avons déjà dit ensemble, n'est rien sans le jour 1, celui de la crucifixion. Et le jour 1 n'a pas de sens sans le jour 3, celui de la résurrection. Les deux sont annoncés, les deux doivent s'accomplir, car les deux sont nécessaires au devenir de notre humanité. Un vendredi saint qui est plein de douleurs et un jour de Pâques qui est plein de surprises. En effet, Pâques introduit une rupture indispensable. Pâques, c'est Dieu qui se donne à travers Jésus. C'est Dieu qui se donne à travers Jésus, son Fils. Et c'est lui qui accomplit le mouvement de l'humain, le mouvement vers l'humain, pardon, pour que ce mouvement de l'humain vers son Créateur redevienne possible et qui rend donc possible une alliance nouvelle, celle que, puisque nous parlons des prophètes, Jérémie avait annoncé. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël après ces jours, déclare l'Éternel. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Pâques ouvre le chemin, cette fois-ci, de l'adhésion du cœur. De l'adhésion du cœur de l'homme à ce que Dieu lui propose à travers Jésus-Christ. Mais le premier pas, celui qui coûte tellement, c'est bien Dieu qui le fait. Donc cet aboutissement était nécessaire pour ouvrir un nouveau chemin d'alliance. Mais pas que c'est aussi un recommencement. À la différence de notre ami disciple, nous, je l'ai déjà dit, nous sommes de l'autre côté de Pâques. Nous savons que ce qui succède à Pâques, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Une quarantaine de jours où le Christ ressuscité va se faire connaître et reconnaître au-delà du cercle des 11. Et c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens dans une lettre qu'il leur envoie environ 25 ans après les événements. C'est-à-dire pas très longtemps finalement. C'est comme si vous écriviez aujourd'hui le passage à l'an 2000. C'est pas si vieux que ça. 25 ans après, Paul rassemble ça et écrit la chose suivante. « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme un enfant né après terme, on pourrait dire en retard, d'une certaine façon. » Paul écrit ça à des Corinthiens, nous l'avons vu en introduction, qui ne croient pas à la résurrection. Et qu'est-ce que Paul est en train de leur dire? Vous avez les moyens de vérifier. Il y en a 500 qui peuvent en témoigner, il n'y en a que quelques-uns qui sont morts. Vous avez les moyens de vérifier. 40 jours donc au cours desquels Jésus le ressuscité, le relevé d'entre les morts, va préparer tous ceux qui le suivent à la prochaine étape. Quelques semaines qui vont déboucher sur une nouvelle vie pour les disciples et ils vont devenir capables. Ils vont devenir capables à leur tour, au moment de la Pentecôte, d'expliquer à une multitude de gens comment l'Écriture annonce et valide la promesse du salut en Jésus-Christ. Et c'est un plaisir que de relire dans Actes le discours de Pierre, qui lui aussi fait là, met en perspective les choses, comme Jésus l'a fait pour Cléopas et son compagnon. Et c'est vraiment une des premières choses que Pierre et ses compagnons font le jour de la fête des moissons, c'est la fête des moissons. Ils sont désormais capables de placer la mort et la résurrection de Christ dans le cadre de l'alliance que Dieu recherche avec son peuple. Il y a donc à la fois continuité, mais il y a aussi rupture dans les voies que Dieu emploie, puisque c'est lui-même qui vient se donner pour recommencer une alliance. Pâques est un recommencement. Et enfin, et nous l'avons vu ce matin, Pâques confirme ce qu'avaient annoncé les prophètes. Et ainsi, Pâques donne une preuve puissante que la parole de Dieu est vraie. Mais Pâques ne fait pas que valider le passé, des annonces, le passé des prophéties. Pâques valide pour les disciples le présent. Ils sont en train de vivre ça. Jésus annonce sa mort et sa résurrection, on l'a vu à plusieurs reprises, et ça se passe sous leurs yeux. Donc Pâques, pour les disciples, c'est une vérité aussi du présent, très concrète. Et si ce que Jésus dit se réalise, alors sa parole est digne de confiance. Pâques est ce moment unique où la vérité éclate. Jésus est ressuscité. Alors oui, et j'en termine, le passé et le présent démontrent de façon éclatante la vérité de la parole. Quand Jésus tourne les regards de ses disciples vers le futur, lorsqu'il envoie ses disciples en mission depuis la Galilée, là où tout a commencé, et qu'il leur fait une nouvelle promesse, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », il les envoie en mission, et il termine en disant « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sachant tout ce que nous avons entendu à l'instant, qu'est-ce qui pourrait nous faire douter désormais de celui qui dit vrai ? Amen.